France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, une chose était sûre. Le ciel, la terre, l'océan, le soleil, les abîmes sous la terre, le jour et la nuit. Tout cela, ce sont des dieux. Ces êtres sont infiniment plus grands, plus puissants et forts que nous, les mortels. Ils sont donc divins. Même chose pour les fleuves, les vents, pour tout ce qui vient heurter ou aider nos vies, tout ce qui les rend possibles ou au contraire, qui les menace. Mais des gens ont commencé à se dire, soit tout ce qu'on voit, ou même qu'on ne voit pas et qui domine nos existences, c'est du divin. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de dire que le soleil, cet astre grandiose qui nous éclaire et qui fait vivre le vivant, est un conducteur de char, qu'il a eu un enfant malheureux, Phaéton, que Zeus a foudroyé parce qu'il ne savait pas conduire le char de son père? On voit le soleil tous les jours, on voit tout ce qu'il nous apporte, mais on ne voit pas de char. Est-ce qu'on a vraiment besoin de prêter à ces divinités qui nous impressionnent tant toutes ces histoires, ces aventures invraisemblables? Souvent même, ces histoires sont scandaleuses. Faut-il vraiment embarquer les dieux dans des luttes effrayantes entre eux? Faut-il leur attribuer tant de cruauté et de comportements immoraux que n'importe quel mortel un peu sensé désapprouverait avec force?
Quand les dieux rôdaient sur la terre... Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
On dit qu'il y a un dieu tout-puissant, Zeus, qui domine les autres dieux, soit. Cela rend l'univers plus cohérent et l'histoire humaine prend un sens si c'est Zeus qui la dirige, que ce soit en douceur ou avec des catastrophes spectaculaires. C'est rassurant de savoir qu'il y a un dieu qui gouverne. La vie de l'humanité paraît tellement insensée, dure, souvent très cruelle, qu'on peut se réconforter, au moins un peu, en se disant que derrière ces événements chaotiques, il y a une volonté divine. Mais fallait-il que Zeus commette autant d'abus? Tous ces adultères auxquels il se serait livré sans aucun scrupule, en faisant l'amour à tire-larigot, à droite et à gauche, et pire que tout, fallait-il qu'il maltraite à ce point son père Cronos, en l'envoyant croupir au fond de la terre, dans la prison du Tartare? Et toutes ces histoires de guerre affreuse avec les géants, avec les titans, est-ce bien raisonnable? Est-ce que les dieux méritent qu'on dise tout ça sur eux? Euripide, le poète tragique qui aime bien se moquer des croyances traditionnelles, met en scène un grand héros, c'est Héraclès, qui s'insurge contre les mythes. Ils ont sali la réputation des dieux en faisant de grands délinquants. Ce ne sont que mensonges.
Que les dieux puissent aimer en des unions hors normes, je ne le pense pas. Et qu'ils s'attachent les bras par des liens, je ne l'ai jamais cru et n'en serai jamais persuadé. Et pas davantage qu'un dieu soit le maître d'un autre.
Un dieu, s'il est vraiment divin, ne peut pas avoir accompli tout cela. Il se comporterait comme les humains, en pire, puisqu'il est plus fort. Or, si un dieu est différent de nous, c'est d'abord parce qu'il est parfait, il est toujours comblé. Contrairement à nous, il ne vit pas dans le manque. Il n'a aucun besoin, puisqu'il est bienheureux. Sinon, ce n'est pas un dieu. Il est donc impossible qu'il soit pris par des envies qui l'emportent, couché avec n'importe qui ou taper son père. Ceux qui racontent cela sont des menteurs.
Un dieu, s'il est vraiment dieu, n'a besoin de rien. Récit lamentable de poète, tout ça.
Les poètes qui ont inventé les mythes n'ont eu qu'un seul but, séduire, distraire, étonner. Ils ne disent rien de la vérité du divin, qu'ils ne connaissent visiblement pas. Leurs histoires servaient à amuser les gens au cours de banquets bien arrosés. On voulait boire, plus que de raison. On voulait oublier les soucis de la journée. Et on se laissait emporter par ces histoires idiotes, fausses, mais haletantes. Euripide, en fait, s'amuse comme d'habitude. Il cite, sans y croire, une opinion bien connue. il reprend une vieille critique de la mythologie. Presque un siècle avant lui, un philosophe qui s'appelait Xénophane s'en était déjà pris aux histoires de Dieu inventées par les poètes. Xénophane imaginait un banquet paisible, où on ne racontait pas toutes ces histoires absurdes, où on ne boirait pas plus qu'il ne faut, puisqu'on doit être capable de rentrer chez soi, et où on se ferait plaisir en chantant d'une voix pure la beauté des dieux et les mérites de la vertu. On serait entre soi, entre philosophes, tout serait beau, mesuré, bien ordonné, et on dirait des choses belles. Pas sûr qu'on devait y rire beaucoup dans ces fêtes.
Au centre, l'encens répand une odeur chaste, fraîche et l'eau, et douce et pure. Les pains sont placés tout près, blonds, et la table impressionnante, alourdie de fromage et de miel épais. L'autel au centre est partout touffu de fleurs. Un chant tout autour et une fête tiennent la maison. Il faut qu'en premier, les hommes bienheureux chantent le Dieu avec des mots bienveillants et des récits purs. Après les libations et la prière qui demande de pouvoir faire ce qui est juste, car c'est cela qui sert le plus. Ce n'est pas abuser, boire autant qu'ayant bu, on rentre chez soi sans l'aide d'un serviteur, si l'on n'est pas tout vieux. Parmi les hommes, il faut louer celui qui a bu et proclame de belles choses tirées de sa mémoire, et celui qui sait parler de la vertu, et non pas mener des combats de titans ou de géants ou de centaures, fiction des anciens ou des contestations furieuses. Il n'y a là rien d'utile, mais toujours pour les dieux, avoir une attention qui soit bonne.
L'idée pour ce philosophe est que si on a une compréhension correcte de ce que sont les dieux, on peut créer une société heureuse, au moins celle des philosophes. Une société qui peut faire la fête sans excès, sans les stupidités que l'on débite dans les fêtes habituelles. La critique était rude pour les poètes et leurs histoires, accusées de dénaturer le divin. Ces accusations étaient répétées pendant des siècles. Les poètes ont eu contre eux la sagesse, la philosophie, la science. Ils n'avaient donc plus le monopole pour parler des dieux et du monde. Leurs histoires mouvementées, colorées, imaginatives, surprenantes, passaient aux yeux de certains pour des mensonges, des inventions sans vérité. Qu'est-ce qu'il s'était passé? Pourquoi les poètes ont-ils été à ce point critiqués? Près d'un siècle avant ce Xénophane, vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ, quelques générations seulement après Hésiode, un type bizarre, un grec d'Asie mineure, avait tout simplement inventé une nouvelle manière de parler du monde. Ça chamboulait tout. Cet homme vivait dans la partie orientale du monde grec, sur la côte est de la mer Égée, actuellement en Turquie. Il était de la ville de Milet. C'est dans cette même région qu'autrefois était né Homère. Il s'appelait Thalès. L'homme du théorème qu'on apprend encore à l'école, vous savez, les droites qui percutent deux parallèles et ce que ça fait pour la mesure de leurs angles. L'homme qui a donné son nom à une très grosse entreprise française d'armement. Thalès était exceptionnellement savant, il était polyvalent. Il pouvait être ingénieur, il avait divisé les eaux d'un fleuve pour que le roi Crésus puisse faire traverser son armée. Il faisait de la politique en refusant que sa ville, Milet, conclut une alliance avec ce même roi Crésus qui allait bientôt perdre son royaume. En donnant des conseils pour une constitution politique de l'ensemble des villes ioniennes de la région, il savait mesurer la hauteur d'une pyramide en plantant un bâton à l'extrémité de l'ombre de la pyramide. Le rapport entre la longueur de l'ombre et la hauteur du bâton lui permettait, à partir de la longueur de l'ombre de la pyramide, de calculer sa hauteur. Il était extraordinairement inventif en astronomie. On dit qu'il a prédit l'éclipse du 28 mai de l'an 585 avant Jésus-Christ, qu'il a découvert les tropiques, divisé l'année en 365 jours. On dit que c'est le premier à avoir compris que la lumière de la lune venait du soleil. Tout cela est peut-être de la légende, mais c'est ce qu'on disait, un génie. À l'époque, on disait un sage, un sophos. C'était aussi un débrouillard, comme on se moquait de lui, parce qu'il était resté pauvre, malgré toute sa science, il se vexa. Grâce à ses connaissances en astronomie, il avait compris que cette année-là, la récolte des olives serait très abondante, alors qu'en hiver, les oliviers avaient mauvaise mine. Il acheta tous les moulins à huile du coin, qui ne valaient presque rien. Et une fois la récolte advenue énorme, il fit fortune. Question vie privée, il n'était pas très dynamique. Il voulait l'absolue tranquillité. Il n'avait pas d'enfant. Si on lui demandait pourquoi, il répondait
« À cause de l'amour que j'ai pour les enfants ».
Sa mère s'inquiétait parce qu'il n'était pas marié. Il disait
« Le bon moment n'est pas encore venu ».
Et comme elle insistait
« Ce n'est plus le bon moment ».
Thalès est aussi très connu en Grèce pour avoir été le premier à faire de la philosophie, à s'être intéressé à la nature en philosophe. Ce n'était peut-être pas le tout premier, mais il a éclipsé, c'est le cas de le dire, tous ceux d'avant, s'il y en a eu. Plutôt que de re-raconter encore une fois la naissance du monde à partir de la naissance des dieux, il a cherché dans la nature elle-même le principe de toute chose, un principe qui soit évident, simple et qui explique toute la variété du monde. Comme cause de toutes les choses, il a posé non pas un dieu comme océan, mais un élément physique, l'eau. L'eau, disait-il, est le principe de toute chose.
Heinz Wissmann, philosophe.
La mythologie, c'est un puissant système de pensée, mais dualiste. Alors que la philosophie, et c'est pour ça qu'il y a de philosophie que depuis les Grecs. Il y a de la pensée partout, en Inde, etc. Mais la philosophie, au sens technique du terme, est indissolublement liée à cette espèce de mise au sommet d'un principe unique, avec tous les problèmes que ça va ensuite engendrer.
Principe en grec, ça se dit arché. Le mot signifie à la fois le commencement, l'origine, et le commandement, le pouvoir, comme dans le mot anarchie, l'absence de pouvoir, ou monarque, le seul maître. L'arché est le principe qui fait exister et qui met de l'ordre. Cela veut dire que la chose réelle qui compte vraiment, plus que les autres, c'est l'eau. C'est à partir d'elle qu'on peut engendrer tous les êtres et comprendre leur organisation. De Thalès, nous n'avons aucun texte, nous ne savons même pas s'il a écrit. De lui, on ne lit que des résumés de sa pensée.
Il disait que le principe du tout et sa fin est l'eau. En effet, c'est à partir d'elle que tout se forme quand elle se solidifie et inversement se fluidifie. Et toutes les choses reposent sur elle. C'est d'elle que proviennent aussi les tremblements, les concentrations des vents et les mouvements des astres.
L'eau est l'élément physique le plus fluide. Elle peut prendre toutes les formes et elle peut changer d'état. Si l'eau se condense, dit Thalès, on obtient du solide, la terre. Si elle se raréfie, au contraire, on obtient l'air. Et si l'air se raréfie, on obtient le feu. Un seul élément physique, un élément bien visible, tangible, familier, est à la base de tous les autres, et par là, de tout ce qui est. Car tous les êtres sont composés des éléments, selon des dosages différents. En nous, il y a de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Thalès peut ainsi expliquer la structure du monde et dire pourquoi la terre, à la fois, est immobile et de temps en temps, se met à bouger dans les séismes. C'est parce qu'elle flotte.
Il dit en effet que la terre est soutenue par l'eau et se déplace à la manière d'un navire et qu'elle fluctue en raison de sa mobilité quand on dit qu'elle tremble. Il n'est donc pas étonnant qu'il existe une abondante quantité de liquide qui se déverse dans les fleuves, puisque le monde est tout entier dans un liquide.
On retrouve là le Poséidon du mythe, le dieu de la mer qui secoue la terre. Mais l'explication de Thalès est mécanique, purement physique. L'idée était de rattacher tous les phénomènes à une cause et ainsi de montrer l'unité du réel. Faire de l'eau le principe de toute chose ne veut pas dire qu'on évacue les dieux. Au contraire, Thalès pensait qu'il y en avait partout. Il aurait dit
« Tout est plein de dieux ».
En effet, si l'eau peut changer, produire et faire bouger les êtres, c'est qu'elle est animée, qu'elle a une âme, et son âme est divine. Thalès penser que même les choses qu'on dit inanimées, comme le minéral, possèdent une âme. On le voit avec un aimant qui fait bouger le fer.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Le monde, si on en comprend le principe, est une totalité magnifique de nature divine. Et cette explication absolument nouvelle, révolutionnaire du monde, n'est pas seulement une nouveauté d'ordre scientifique. Elle change la vie. Elle permet de bien vivre dans sa vie de tous les jours, comme personne, comme citoyen de sa cité, puisqu'on sait comment marchent les choses et quelle place on peut y trouver. On prête à Thalès, le sage, plein de conseils sur comment mener une vie bonne. On dit que Thalès, fort de cette connaissance, a vécu longtemps. Il est mort vieux, alors qu'il assistait à des épreuves sportives. Il faisait chaud et il manquait d'eau, son élément fétiche, comme quoi l'eau est bien un principe de vie.
Ce sage mourut alors qu'il assistait à un concours gymnique à cause de la chaleur, de la soif et de sa faiblesse alors qu'il était déjà vieux.
Mais en fait, la vie de Thalès n'a pas toujours été tranquille. Une nuit, il a connu une catastrophe et a suscité un rire, une moquerie qui ont traversé les siècles. Il reste quelque chose de risible en lui, en sa science. Platon raconte qu'un soir, alors qu'il marchait dehors pour regarder les étoiles, Thalès tomba dans un puits qu'il n'avait pas vu.
C'est de cette manière que Thalès, tandis qu'il s'adonnait à l'astronomie et regardait en haut, tomba dans un puits.
Décidément, Thalès ne pouvait pas échapper à l'eau. Les étoiles dans son système sont des émanations lointaines de l'eau. Mais si on les regarde, on ne voit pas l'eau d'en bas, bien matérielle. Cette chute de l'astronome n'est pas passé inaperçu.
Une spirituelle et charmante servante de Thrace se moqua de lui, parce qu'il désirait savoir ce qui se passait dans le ciel, mais ne voyait pas ce qui était devant lui et à ses pieds.
La plaisanterie, ajoute Platon, vaut toujours contre ceux qui consacrent toute leur vie au savoir. Ils ont la tête en l'air et pas les pieds sur terre. Et il est vrai que la science, avec ses explications de plus en plus abstraites de la nature, va s'éloigner radicalement de l'expérience commune, de ce qu'on a tous les jours sous les yeux. Dire que l'eau est le principe de tout ce qui existe dans le monde rompt brutalement avec ce qu'on croit savoir d'habitude. On connaît bien l'eau. Le poète Pindare a même dit que c'était la meilleure des choses. Mais personne encore n'avait donné à l'eau ce rôle de principe universel. C'est une révolution dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Friedrich Nietzsche, le philosophe, qui a été longtemps un grand professeur de littérature et de philosophie grecque ancienne, a bien repéré dans cette phrase bizarre, invérifiable et en fait baroque, « L'eau est le principe de toute chose », le tout début de la philosophie.
La philosophie grecque semble commencer avec une idée extravagante. La thèse selon laquelle l'eau serait l'origine et la matrice de toute chose.
Puis, Nietzsche se demande si ça vaut la peine de prêter attention à une idée aussi saugrenue. Il dit que oui, absolument. Non seulement Thalès parle de l'origine du monde sans recourir à la fable, au mythe, à l'idée d'une naissance des dieux, mais aussi Thalès ne s'est pas contenté d'observer l'eau, son action, ses transformations. S'il n'avait fait que cela, il aurait seulement apporté des précisions sur l'un des éléments de la nature, l'eau. Il a fait beaucoup plus. Il a accompli un grand saut. Il a voulu, en une phrase, dire l'unité de toutes les choses. Il a opéré une fabuleuse généralisation en posant comme idée première que tout est un.
Ce qui l'a poussé, ce fut un axiome métaphysique dont l'origine est une intuition d'ordre mystique et que nous rencontrons dans tous les systèmes philosophiques, comme allant de pair avec les tentatives toujours renouvelées de l'exprimer mieux. C'est ce postulat que tout est un.
Si on rattache tous les phénomènes observables dans le monde, phénomènes actuels, passés ou futurs, à une cause unique, en l'occurrence, selon Thalès, l'action de l'eau, on pose fondamentalement que le monde est un et qu'il est régi par un principe unique. Le défi est gigantesque et toujours fécond encore aujourd'hui. Il anime la science et la philosophie. On connaît bien la variété inépuisable du réel, tous ces changements, toutes ces tensions, ces incohérences. Mais on pose que derrière cette diversité bien visible, il y a une unité qu'il faut déceler et reconstruire par son travail de recherche. On se donne comme tâche inépuisable d'articuler de la manière la plus rigoureuse possible l'unité, à savoir l'unité du monde et la multiplicité de ce que l'on constate. La philosophie et la science n'ont pas fini de travailler cette immense question.
Jean-Pierre Vernant, helléniste.
Les Grecs ont été, dans tant de domaines, des inventeurs, des découvreurs, des types qui ont ouvert des voies nouvelles. Au départ, dans ce monde qui est celui de l'épopée homérique et de l'Odyssée, on a un homme qui est un homme du merveilleux, de la fable. Et puis, c'est un autre homme, c'est un homme qui va écrire pour nous des traités, qui ne seront plus des chants poétiques, qui seront des traités écrits en prose. Il y aura des traités ou des dialogues philosophiques, il y aura des textes qui seront des textes mathématiques. C'est-à-dire un homme qui essaye de résoudre par des procédures intellectuelles et en les livrant un écrit, tout ce qui auparavant était simplement le merveilleux. On a appelé ça, quelquefois, le passage du mythe à la raison, le miracle grec.
En posant un principe unique, Thalès n'a pas suivi la voie qu'empruntent d'autres traditions, qui expliquent la complexité du monde à partir de deux principes opposés, comme le yin et le yang dans la pensée chinoise. Thalès et ceux qui ont travaillé à sa suite ont fait le pari que l'on peut faire remonter les tensions, les incohérences du réel à une cause unique, clairement définie. La phrase de Thalès, « L'eau est le principe de toute chose », a eu dans certains milieux l'effet d'une bombe. Elle a immédiatement suscité une série de réactions en chaîne. Et on a vu la philosophie, qui venait juste de naître, osciller tout de suite entre plusieurs positions rivales, en fait toujours les mêmes, qui jusqu'à aujourd'hui ont animé son débat. Heinz Wissmann, en bon détective tenace, nous a appris à suivre le fil de cette infinie discussion qui commence avec Thalès et son premier contradicteur, un philosophe nommé Anaximandre, et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Cet Anaximandre était de la même ville que Thalès, Milet. Thalès a été son maître, dit-on. Comme tout bon élève, Anaximandre s'est révolté contre son maître. Il était doué. Comme Thalès, Anaximandre a fait de la politique, en fondant une ville, Apollonie, sur les bords de la mer Noire. Comme Thalès, il faisait des prédictions sur les événements naturels. Un jour, il a annoncé aux Spartiates qu'ils devaient tout de suite quitter leur maison, un tremblement de terre étant imminent. Il a eu raison. Il a été le premier grec à établir une carte de la terre et à construire un globe céleste. Contrairement à Thalès, Anaximandre n'avait pas l'air pauvre. Il se promenait en se pavanant, revêtu d'habits somptueux, on disait prétentieux. Et il s'exprimait, dit-on, dans un style poétique boursouflé. En fait, il essayait de se donner l'apparence des chanteurs très populaires, très célébrés, qui chantaient de l'Homère devant les foules, en agitant leurs habits de luxe. Mais au lieu d'Homère, Anaximandre exposait une science tout à fait nouvelle. Dans cette science, la philosophie de la nature, Anaximandre s'est opposé à son maître Thalès. Il a dû lui dire quelque chose du genre « Ça ne va pas, ton système. L'eau dont tu parles tant, elle vient d'où ? Après tout, ce n'est qu'un élément physique comme les autres, un élément bien délimité, bien défini. À lui aussi, il faut trouver une origine qui soit commune à tous les éléments, à tous les êtres. Cette origine ne peut être définie, délimitée comme le sont l'eau, la terre, etc. Car ce ne serait pas une vraie origine. Elle serait simplement comme tous les êtres. Si elle est une vraie origine, d'où sont issus tous les êtres définis, elle doit être indéfinie, illimitée, indistincte, en grec, apeiron. C'est donc à partir de ce qu'on peut appeler l'illimité, l'indistinct, que sont apparus les êtres bien définis, bien déterminés que l'on voit dans le monde. Ces êtres qui nous entourent et nous-mêmes ne peuvent être que seconds. Pour penser un monde un dans sa cohérence, il faut donc poser comme principe unique quelque chose d'extérieur au monde des choses. Un dehors illimité, sans identité, d'où proviennent les choses et où elles disparaissent. Mais cette position n'allait pas rester longtemps sans réponse. La bagarre philosophique était lancée. Un élève d'Anaximandre s'est, comme il se doit, engagé dans une critique radicale de son maître. On peut imaginer qu'il lui a dit « Ça ne va pas à ton système, Anaximandre. Pour expliquer le monde et montrer son unité, il faut partir du monde lui-même et donc choisir la partie du monde qui est, comme tu dis, la plus illimitée, la plus indéfinie. Ce sera l'air. » Ce partisan de l'air s'appelait Anaximène.
Anaximène déclarait que l'air est Dieu, qu'il naît et qu'il est immense, illimité et toujours en mouvement.
Comme Thalès faisait avec l'eau, Anaximène explique à partir des transformations de l'air les contrastes dans le monde, comme l'apparition du chaud et du froid. L'air refroidit s'il est condensé et se réchauffe s'il devient plus rare.
Car le vieil Anaximène dit que la contraction et la concentration de l'air est le froid, tandis que le rare et le lâche, c'est le terme qu'il emploie, est le chaud. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas sans vraisemblance que l'on dit que l'homme émet de sa bouche et le chaud et le froid. Car le souffle se refroidit quand il est pressé et condensé par les lèvres, tandis que quand la bouche se détend, il sort chaud sous l'effet de la raréfaction.
Avec ces transformations de l'air, selon sa densité, on peut tout produire et on peut expliquer la forme du monde. La terre, qui est plate, sert de couvercle stable à l'air, qui, coincé sous elle, ne peut se mouvoir. Ouf, l'unité du monde était sauvée, sans qu'on ait besoin de faire appel à quelque chose en dehors du monde. Thalès avait raison, il s'était simplement trompé d'élément. Il fallait partir de l'air et pas de l'eau. Chaque chose a ainsi son identité bien précise, de même que le monde, si on le prend dans sa totalité, puisque tout est un.
body is based on food. Now take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or maybe he's Australian, I never really listen when he's talking about himself. Of exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath a futon. Mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit. Man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
La philosophie n'allait pas en rester là. Toujours à l'est de la Grèce, sur la côte actuellement turque, dans la ville d'Éphèse, un autre philosophe s'est mis à répliquer. Vous êtes tous bien naïfs quand vous posez l'unité de toute chose, quand vous cherchez de l'identité partout. Vous voulez que tout soit fixe, stable, bien identifié. Vous vous trompez complètement. Vous ne vous rendez même pas compte que tout est changeant, contradictoire, double. Regardez le feu. C'est l'élément qui brille le plus. Il apparaît, flamboie, puis disparaît. Et qu'est-ce qu'il laisse ? Des cendres sombres. Feu et noirceur sont indissociables. Regardez le chemin qui monte. Il est aussi celui qui descend. Tout est contradictoire, double. Ce rabat-joie s'appelait Héraclite. Il était bougon, disait-on, et pensait que ses contemporains ne comprendraient rien à ce qu'il dit. C'est pour cela qu'il est allé déposer son livre loin de la foule, dans le majestueux temple d'Artémis, dont la ville d'Éphèse était si fière. C'est vrai qu'il n'est pas facile à comprendre, dit Héraclite obscur. Mais on sent que partout il s'amuse, il sourit. Il se moque de la naïveté de tous ses contemporains, pas seulement des philosophes, ce serait trop restreint, mais de tout le monde. Pour lui, une chose n'existe que parce qu'elle est aussi son contraire. Prenez un fleuve, il coule, il change, ça on le sait. Mais pourquoi change-t-il ? Pourquoi a-t-il cet élan, cette mobilité qui fait sa force ? C'est parce qu'un fleuve, c'est deux choses à la fois. La fluidité de son courant, et la stricte immobilité de ses rives. C'est pour cela qu'Héraclite a dit
« On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. »
Cette phrase ne veut pas dire simplement que l'eau des fleuves change de seconde en seconde. Elle ne dit pas non plus, comme a fait semblant de le croire l'écrivain Roland Dubillard, que la baignade, deux fois de suite dans le même fleuve, est interdite. Pour ne pas désobéir à Héraclite, Dubillard prenez soin de noter le nom de chaque fleuve où il allait se baigner. Il pouvait ainsi éviter de s'y plonger une seconde fois. La phrase « on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve » dit que si on descend dans un fleuve à partir de ses rives, on ne se baignera pas deux fois dans le même courant. S'il y a ce courant, c'est parce que les rives immobiles exercent une pression sur l'eau qui ne stagne pas et se met à courir. Il n'y a de la mobilité dans le fleuve que parce qu'il y a la stricte immobilité de son lit. C'est comme pour un arc. Sans la courbure de l'arc, solidement maintenue par la corde, les flèches ne s'élanceraient pas. C'est la même chose pour les processus cosmiques. Par la pression du feu, d'un bord à l'autre du monde, il y a un mouvement général des choses.
Arnaud Masset, philosophe.
On a classé comme pré-socratique l'ensemble des savants qui se seraient, avant Socrate, consacrés avant tout à l'exploration de la nature, du cosmos et de ses lois. On va évidemment parler surtout du feu, d'abord chez ceux qu'on appelle les Ioniens, ou plus particulièrement les Milésiens, donc le début de la pensée pré-socratique qui aurait eu lieu sur la côte ouest de l'actuelle Turquie, dans des villes comme Milet, Éphèse, celle d'Héraclite, et qui ont cherché, c'est comme ça qu'on les a souvent expliqués après coup, à l'origine matérielle de toute chose, valorisant pour les uns l'eau, pour d'autres l'air, pour d'autres le feu, ou l'ensemble de ces éléments. Donc c'est chez cela qu'on va trouver une tentative d'explication de la totalité des transformations qui animent le monde à partir des éléments matériels.
Et les dieux dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Les dieux, pense Héraclite, c'est tout simplement ce qui n'est pas nous. Ils sont immortels, heureux. Mais tout en n'étant pas nous, ils sont en rapport constant avec nous. Ils décident du contenu de chacune de nos journées. Et nous passons notre temps à vouloir les imiter. Ils nous entourent, ils nous obsèdent. Cela fait dire à Héraclite que le propre de l'homme, ce qui fait sa façon d'être quotidienne, sa manière humaine de vivre, ce que les Grecs appelaient « ethos », d'où vient notre mot « éthique », c'est en fait le Dieu.
Les caractères de l'homme, c'est le Dieu.
Nous existons, jour après jour, dans cet écart permanent, dans cette contradiction entre notre condition d'homme et le divin. C'est cela qui fait l'humain. Notre identité d'être humain n'est que de l'altérité. « Je est un autre », disait Arthur Rimbaud. La philosophie a dû ensuite ramer ferme pour trouver le moyen de parler malgré tout d'un monde cohérent, avec des identités définies, de manière à faire de la science. C'était le travail fascinant de gens comme Parménide, puis Empédocle et de beaucoup d'autres. C'est encore une autre histoire. La nature, par rapport à celle que racontaient les mythes, avait totalement changé de visage. Elle était toujours divine, mais les dieux n'y rôdaient pas comme avant. Il n'y avait plus le char ailé du soleil. Quand on regarde comment ces premiers philosophes ont envisagé le soleil, on est surpris. Leurs avis divergeaient fortement selon la logique de leur système. En voici une liste, telle qu'on peut la glaner dans les commentaires anciens des premiers philosophes. On dirait une pièce de théâtre.
Thalès dit « Le soleil est fait de terre. La grandeur du soleil est la 720e partie de l'orbite solaire. »
Anaximandre dit « Le soleil est un cercle 28 fois supérieur à la taille de la Terre, semblable à la roue d'un chariot. Il a une jante creuse remplie de feu qui, dans une certaine partie, laisse voir le feu par une ouverture, comme à travers le tuyau d'un soufflet. Et ceci est le soleil. »
Anaximène dit « Le soleil est plat comme une feuille. Les astres sont plantés dans le corps cristallin du ciel à la manière de clous. Certains disent que ce sont des feuilles de feu, comme des peintures. »
Xénophane dit « Le soleil est fait de nuages incandescents. Le soleil est fait de petits feux qui se sont assemblés à partir de l'exhalaison humide et qui forment le soleil en s'assemblant. »
Parménide dit « Le soleil est igné. Le soleil et la lune se sont détachés de la voie lactée, le premier à partir du mélange plus ténu, qui est chaud, l'autre à partir du plus dense, qui est froid. Le mélange du dense et du ténu produit la couleur laiteuse de la voie lactée. »
Certains philosophes ont eu des idées vraiment bizarres. Le soleil ne serait pas un objet céleste par lui-même, un astre, mais un simple reflet. Le soleil n'est pas une substance, il n'existe pas par lui-même. Il n'est qu'un effet, du feu qui règne dans l'univers, qu'il renvoie vers nous comme une lentille.
Philolaos, le pythagoricien, dit « Le soleil est comme du verre. D'une part, il reçoit le reflet du feu qui est dans le monde, et d'autre part, il filtre vers nous la lumière et la chaleur. »
Celui qui a proposé l'idée la plus surprenante du soleil est le philosophe Empédocle, un immense philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a vécu en Sicile, à Agrigente. Il y a même aujourd'hui une ville portuaire qui, à côté d'Agrigente, s'appelle Porto Empédocle. Son œuvre, dont par bonheur nous avons pu conserver de longs fragments, traite de tous les sujets possibles, de l'histoire générale du monde, à la fabrication des êtres, aux embryons, au processus de la connaissance, tous les objets que l'on peut connaître. Sur le soleil, Empédocle est très étonnant, comme l'a montré Jean Bollack. Le soleil n'existe pas de manière autonome. Il n'a pas de nature propre. Il est un reflet. Si le soleil, cercle bien rond, a la forme de la Terre, qui pour Empédocle était ronde, c'est qu'il en est le reflet. La voûte qui entoure la Terre et qui clôt l'univers a une partie sombre, nocturne, pleine de vapeur, et une partie enflammée. Les deux parties tournent régulièrement autour de la Terre. Quand le feu de la partie enflammée touche la surface opaque de la Terre, il rebondit, se concentre et projette sur la voûte lumineuse l'image de la Terre. C'est cette image de notre Terre qui nous éclaire. La Terre crée son propre soleil.
On peut dire brièvement, et pour résumer, que le soleil est un reflet du feu qui entoure la Terre.
Héraclite, l'ironique, a mis son grain de sel dans ce débat scientifique sur la taille et sur la nature du soleil. Il n'a pas pu s'empêcher d'ironiser et de se moquer des savants qui s'échinaient à donner une opinion sur la taille de cet astre lointain. Anaximandre disait qu'il était grand comme 28 fois la Terre. Une mesure, rappelle Héraclite, se fait en pieds. Or, si on compare la taille du soleil que nous voyons avec un pied, pour cela il suffit de s'allonger par terre et de lever une jambe, on voit qu'ils ont la même taille.
Le soleil est de la largeur d'un pied d'homme.
Héraclite, le contestataire, encore une fois s'amuse. Il imagine un savant qui veut savoir combien mesure le soleil, un savant qui ne se contente pas de voir le soleil avec les yeux de tout le monde, mais qui veut aller au-delà des apparences et avoir une connaissance précise de cet astre. Ce savant se sert de la mesure la plus sûre, le pied, qu'il met devant le soleil. Mais en faisant ça, il le cache, il l'éclipse. Si on cherche à mesurer le soleil, on le fait disparaître. Une idée très moderne. L'opération scientifique est censée faire découvrir l'objet, mais en fait, elle prend sa place, elle l'élimine.
Et pour toujours, tu es fidèle, mais l'amour
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Ces philosophes n'avaient donc pas froid aux yeux. Question audace, inventivité. Aucune de leurs hypothèses sur la nature et la taille du soleil ne tient la route. Aucune n'a résisté aux avancées de la science. Mais toutes montrent comment la connaissance progresse par une liberté d'esprit totale. Si le soleil est de la terre, ou une émanation humide raréfiée, s'il est une feuille d'or sur la voûte céleste, comme une peinture, ou un simple reflet de la terre, cela veut dire que la science ne se laisse pas fasciner par les objets qu'elle voit. Elle s'interroge sur des relations, sur des rapports entre les éléments du cosmos, dont elle essaye de comprendre la logique au sein d'un système dont on suppose qu'il est cohérent. On dirait aujourd'hui une théorie générale pour laquelle les savants discutaient librement.
Hubert Reeves, astrophysicien.
La science, c'est pas la vérité, il faut pas confondre. La science, c'est pas c'est vrai, c'est pas vrai. La science, c'est la plausibilité. Qu'est-ce que, à la lumière des observations et des théories que nous avons, paraît le plus vraisemblable pour le passé de l'univers? C'est ça la science. Et c'est quelque chose d'éminemment précaire, parce qu'encore une fois, tout cela repose sur le fait que jusqu'ici ça va, mais si on lui donne de nouvelles données, elle dit « bon, ben, je rentre chez moi, je me gratte la tête et j'essaie de faire quelque chose d'autre ». Le doute, c'est l'élément fondamental de la science. Pourquoi vous me dites ça? Pour quelle raison je croirais ça plutôt qu'autre chose? C'est ça qui est la base même de la science qui a été inventée, comme vous savez, à Milet, l'école de Milet, 600 ans avant Jésus-Christ, avec Anaxagore, Anaximandre, les premiers qui disent « cherchons des réponses naturelles dans le monde de la nature à des questions naturelles ». Par exemple, une éclipse de soleil. Pendant longtemps, on imaginait des dragons géants qui venaient bouffer le soleil. Ça, l'école de Millet dit, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Il nous faut des réponses naturelles. Et on trouve des réponses naturelles, et c'est une invention magnifique.
Mais reste une immense question. Construire des systèmes cohérents, où chaque être trouve sa place, sa fonction, c'est passionnant. Ça explique beaucoup de choses. Mais dans ces systèmes, quelle est la place de l'être humain qui tente de vivre le mieux possible, qui doit se débrouiller avec les difficultés de sa vie précaire? Ces philosophes construisent d'immenses mécaniques universelles qui expliquent tout. Mais le fait de vivre, d'expérimenter le temps, la mort, la joie ou le chagrin, ça a quelle place dans ces mondes bien réglés? Ce sont bien des humains qui ont construit ces systèmes. Mais qu'est-ce qu'il reste d'eux dans leurs explications, une fois que l'homme est considéré comme la somme de puissances physiques plus ou moins ajustées, et au premier chef des quatre éléments matériels qui composent l'univers, l'eau, la terre, l'air et le feu. Au moins, avec les mythes, on n'était pas dépaysés. Les héros des grandes histoires étaient des individus comme nous, et même les dieux se donnaient beaucoup de mal pour nous ressembler. Mais l'air, le feu, la terre et l'eau, ce n'est pas nous, c'est Dieu, comme les appellent les philosophes, n'ont pas d'expérience comme nous. La science construit un monde, mais elle ne l'habite pas. Les philosophes ont été conscients de ce problème. Ils n'ont pas voulu laisser les individus concrets, mortels, sensibles et précaires hors de leur système. Pour cela, certains ont utilisé la poésie, la langue, le rythme, les images de l'épopée d'Homère pour exposer leurs théories. La cavalcade des sons, des mots, dont les auditeurs avaient tellement l'habitude quand ils écoutaient les chanteurs d'épopées, était là pour les entraîner, pour créer de l'enthousiasme et aider les auditeurs à franchir la distance immense qui sépare leur vie quotidienne et les révélations que la philosophie allait leur apporter sur la nature, le monde, le vivant en général, les dieux. Écrire en vers, en rythme, avec une belle virtuosité poétique, montrait au public qu'on le prenait par la main et qu'on le faisait concrètement, corporellement, participer à l'initiation philosophique. Le poème du philosophe Parménide, sur l'être en général et sur la nature, commence par le récit d'une chevauchée fantastique. Les juments dont parlent les philosophes, avec la cadence de leurs sabots, sont les rythmes rapides qui l'ont arraché à ce monde habituel et l'ont emporté lui-même vers la révélation divine de la vérité. Il a fallu d'abord que, comme Ulysse, il passe par beaucoup de villes différentes avant d'atteindre le lieu sacré de la révélation. C'est le tout début du poème philosophique de Parménide.
Les juments qui me portent, aussi loin que va mon désir, me conduisaient, depuis qu'elles m'avaient mis sur le chemin de riches langages, de la divinité, celui qui porte l'homme de savoir dans toute ville. C'est sur ce chemin que j'étais porté, c'est là que me portaient les juments, de riches discours. Elles tiraient le char, les filles montraient le chemin. L'axe dans les moyeux lançait un crissement de flûte, en brûlant, car il était pressé par le double tourbillon des cercles de chaque côté, quand, se dépêchant de le mener, les filles du soleil laissaient derrière elles les maisons de la nuit pour les lumières, et de leurs mains repoussaient les voiles loin de leur tête. Là, il y a la porte des routes de nuit, comme de jour.
Le philosophe, sur son char, va franchir cette porte. L'initiation pourra commencer. Une déesse va lui révéler les secrets de l'être et du monde. En racontant tout cela dans la langue et le vers d'Homère, en faisant allusion au voyage d'Ulysse par les villes qu'il a connues, à son errance jusqu'aux confins du monde, là où les chemins de la nuit et du jour se rejoignent, Parménide utilise un patrimoine commun à lui, l'initié, et à ses lecteurs encore ignorants. Il les emmène par là, dans le monde totalement nouveau, surprenant de sa philosophie. Oui, d'accord, mais une fois que la révélation est faite, une fois que le philosophe a pu la communiquer, comment redescendre vers les humains normaux? Comment retrouver le monde qu'il a fallu quitter pour en découvrir une image totalement nouvelle? Nous verrons la semaine prochaine si cette redescente vers le monde vécu est possible. Est-ce que le mythe n'a pas toujours quelque chose à dire? Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Maria Pasquet. Les archives sonores ont été sélectionnées par Claire Tesset. La prise de son a été assurée par Guillaume Roux et le mixage par Bruno Mourlon. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. Le choix musical est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.